2, chapitre 4, ma tante me cause un grand étonnement. J'écrivis à Agnès dès que nous fûmes engagés, Dora et moi. Je lui écrivis une longue lettre dans laquelle j'essayais de lui faire comprendre combien j'étais heureux et combien Dora était charmante. Je conjurais Agnès de ne pas regarder ceci comme une passion frivole qui pourrait céder la place à une autre ou qui eût la moindre ressemblance avec les fantaisies d'enfance sur lesquelles elle avait coutume de me plaisanter. Je l'assurais que mon attachement était un abîme d'une profondeur insondable et j'exprimais ma conviction qu'on n'en avait jamais vu de pareil. Je ne sais comment cela se fit, mais en écrivant à Agnès par une belle soirée près de ma fenêtre ouverte, avec le souvenir présent à ma pensée de ses yeux calmes et limpides et de sa douce figure, je sentis une influence si sereine calmer l'agitation fiévreuse dans laquelle je vivais depuis quelque temps et qui s'était mêlée à mon bonheur même que je me pris à pleurer. Je me rappelle que j'appuyais ma tête sur ma main quand la lettre fut à moitié écrite et que je me laissais aller à rêver et à penser qu'Agnès était naturellement l'un des éléments nécessaires de mon foyer domestique. Il me semblait que dans la retraite de cette maison, que sa présence me rendait presque sacrée, nous serions, Dora et moi, plus heureux que partout ailleurs. Il me semblait que dans l'amour, dans la joie, dans le chagrin, l'espérance ou le désappointement, dans toutes ses émotions, mon cœur se tournait naturellement vers elle comme vers son refuge et sa meilleure amie. Je ne lui parlais pas de Steerforth. Je lui dis seulement qu'il y avait eu de grands chagrins à Yarmouth par suite de la perte d'Emily et que j'en avais doublement souffert à cause des circonstances qui l'avaient accompagnée. Je me rapportais à sa pénétration pour deviner la vérité et je savais qu'elle ne me parlerait jamais de lui la première. Je reçus par le retour du courrier une réponse à cette lettre. En la lisant, il me semblait l'entendre parler elle-même. Je croyais que sa douce voix retentissait à mes oreilles. Que puis-je dire de plus? Pendant mes fréquentes absences du logis, Traddles y était venu 2 ou 3 fois. Il avait trouvé Peggotty. Elle n'avait pas manqué de lui apprendre, comme à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, qu'elle était mon ancienne bonne, et il avait eu la bonté de rester un moment pour parler de moi avec elle. Du moins, c'est ce que m'avait dit Peggotty. Mais je crains bien que la conversation n'eût été tout entière de son côté et d'une longueur démesurée, car il était très difficile d'arrêter cette brave femme, que Dieu bénisse, quand elle était une fois lancée sur mon sujet. Ceci me rappelle non seulement que j'étais à attendre Traddles un certain jour fixé par lui, mais aussi que Mistress Croup avait renoncé à toutes les particularités dépendantes de son office, le salaire excepté, jusqu'à ce que Peggotty cessât de se présenter chez moi. Mistress Croup, après s'être permis plusieurs conversations sur le compte de Peggotty, à haute et intelligible voix, au bas des marches de l'escalier, avec quelque esprit familier qui lui apparaissait sans doute, car à l'œil nu, elle était parfaitement seule dans ces moments de monologue, prit le parti de m'adresser une lettre dans laquelle elle me développait là-dessus ses idées. Elle commençait par une déclaration d'une application universelle et qui se répétait dans tous les événements de sa vie, à savoir qu'elle aussi, elle était mère. Puis elle en venait à me dire qu'elle avait vu de meilleurs jours, mais qu'à toutes les époques de son existence, elle avait eu une antipathie instinctive pour les espions, les indiscrets et les rapporteurs. Elle ne citait pas de nom, disait-elle. C'était à moi à voir à qui s'adressaient ces titres, mais elle avait toujours conçu le plus profond mépris pour les espions, les indiscrets et les rapporteurs, particulièrement quand ces défauts se trouvaient chez une personne qui portait le deuil de veuve. Ceci était souligné. S'il convenait à un monsieur d'être victime d'espions, d'indiscrets, de rapporteurs, toujours sans citer de nom, il en était bien le maître. Il avait le droit de faire ce qui lui convenait. Mais elle, Mistress Croup, tout ce qu'elle demandait, c'était de ne pas être mise en contact avec de semblables personnes. C'est pourquoi elle désirait être dispensée de tout service pour l'appartement du second jusqu'à ce que les choses eussent repris leur ancien cours, ce qui était fort à souhaiter. Elle ajoutait qu'on trouverait son petit livre tous les samedis matins sur la table du déjeuner et qu'elle en demandait le règlement immédiat dans le but charitable d'épargner de l'embarras et des difficultés à toutes les parties intéressées. Après cela, Mistress Krupp se borna à dresser des embûches sur l'escalier, particulièrement avec des cruches, pour essayer si Peggotty ne voudrait pas bien s'y casser le cou. Je trouvais cet état de siège un peu fatigant, mais j'avais trop grand peur de Mistress Krupp pour trouver moyen de sortir de là. « Mon cher Copperfield !» s'écria Traddles en apparaissant ponctuellement à ma porte, en dépit de tous ces obstacles. « Comment vous portez-vous ? » « Mon cher Traddles, lui dis-je, je suis ravi de vous voir enfin, et je suis bien fâché de ne pas avoir été chez moi les autres fois, mais j'étais si occupé. »« Oui, oui, je sais, » dit Traddles, « c'est tout naturel. La vôtre demeure à Londres, je pense. De qui parlez-vous ? » ?»« Elle, pardonnez-moi, Miss D, vous savez bien, » dit Traddles en rougissant par excès de délicatesse. « Elle demeure à Londres, n'est-ce pas ?» « Oh oui, près de Londres. La mienne, vous vous souvenez peut-être, » dit Traddles d'un air grave, « demeure en Devonshire. Ils sont 10 enfants. Aussi, je ne suis pas si occupée que vous sous ce rapport. »« Je me demande, » répondis-je, « comment vous pouvez supporter de la voir si rarement ?»« Oh, » dit Traddles d'un air pensif, « je me le demande aussi. Je suppose, Copperfield, que c'est parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. » « Je devine bien que c'est là la raison, » répliquai-je en souriant et en rougissant un peu. « Mais cela vient aussi de ce que vous avez beaucoup de courage et de patience, Traddles. »« Croyez-vous, » dit Traddles en ayant l'air de réfléchir, « est-ce que je vous fais cet effet-là, Copperfield ?»« Je ne croyais pas, mais c'est une si excellente fille qu'il est bien possible qu'elle m'ait communiqué quelque chose de ses vertus qu'elle possède. » « Maintenant que vous me le faites remarquer, Copperfield, cela ne m'étonnerait pas du tout. Je vous assure qu'elle passe sa vie à s'oublier elle-même pour penser aux 9 autres. »« Est-elle l'aînée ? » demandai-je. « Oh non, certes, » dit Traddles. « L'aînée est une beauté. » Je suppose qu'il s'aperçut que je ne pouvais m'empêcher de sourire de la stupidité de sa réponse et il reprit de son air naïf en souriant aussi. « Cela ne veut pas dire, bien entendu, que ma Sophie... C'est un joli nom, n'est-ce pas, Copperfield ?»« Très joli, » dis-je. « Cela ne veut pas dire que ma Sophie ne soit pas charmante aussi, à mes yeux, et qu'elle ne fit pas à tout le monde l'effet d'être une des meilleures filles qu'on puisse voir. Mais quand je dis que l'aînée est une beauté, je veux dire qu'elle est vraiment... » Il fit le geste d'amasser des nuages autour de lui et de ses 2 mains. « Magnifique !» « Je vous assure, » dit Traddles avec énergie. « Vraiment ?»« Oh, je vous assure, » dit Traddles, tout à fait hors ligne. « Et voyez-vous comme elle est faite pour briller dans le monde et pour s'y faire admirer, quoiqu'elle n'en ait guère l'occasion, à cause de leur peu de fortune. Elle est quelquefois un peu irritable, un peu exigeante. Heureusement que Sophie la met de bonne humeur. « Sophie est-elle la plus jeune ?» demandai-je. « Oh non, certes, » dit Traddles en se caressant le menton. « Les plus jeunes ont 9 et 10 ans. Sophie les élève. »« Est-elle la cadette par hasard ?» me hasardai-je à demander. « Non, » dit Traddles. « Sarah est la seconde. Sarah a quelque chose à l'épine dorsale. Pauvre fille, les médecins disent que cela se passera, mais en attendant, il faut qu'elle reste étendue pendant 1 an sur le dos. Sophie la soigne. » « Sophie est la 4e. »« La mère vit-elle encore ?» demandai-je. « Oh oui !» dit Traddles. « Elle est de ce monde ?»« C'est vraiment une femme supérieure, mais l'humidité du pays ne lui convient pas, et le fait est qu'elle a perdu l'usage de ses membres. »« Quel malheur !»« C'est bien triste, n'est-ce pas ?» repartit Traddles. « Mais au point de vue des affaires du ménage, c'est moins incommode qu'on ne pourrait croire. » Parce que Sophie prend sa place. Elle sert de mère à sa mère tout autant qu'aux 9 autres. J'éprouvais la plus vive admiration pour les vertus de cette jeune personne et dans le but honnête de faire de mon mieux pour empêcher qu'on abusât de la bonne volonté de Traddles au détriment de leur avenir commun, je demandai comment se portait M. Micawber. Il va très bien, merci Copperfield, dit Traddles. Je ne demeure pas chez lui pour le moment. Non ? Non. À dire le vrai, répondit Traddles en parlant tout bas, il a repris le nom de Mortimer à cause de ses embarras temporaires. Il ne sort plus que le soir avec des lunettes. Il y a une saisie chez nous pour le loyer. Mistress Micawber était dans un état si affreux que je n'ai vraiment pu m'empêcher de donner ma signature pour le second billet dont nous avions parlé ici. Vous pouvez vous imaginer quelle joie j'ai ressentie, Copperfield, quand j'ai vu que cela terminait tout et que Mistress Micawber reprenait sa gaieté. « fis-je. Du reste, son bonheur n'a pas été de longue durée, reprit Traddles. Car malheureusement, au bout de 8 jours, il y eut une nouvelle saisie. Là-dessus, nous nous sommes dispersés. Je loge depuis ce temps-là dans un appartement meublé et les Mortimer se tiennent dans la retraite la plus absolue. J'espère que vous ne me trouverez pas égoïste, Copperfield, si je ne puis m'empêcher de regretter que le marchand de meubles se soit emparé de ma petite table ronde à dessus de marbre et du pot à fleurs et de l'étagère de Sophie. « Quelle cruauté !» m'écriai-je avec indignation. « Cela m'a paru un peu dur, » dit Traddles avec sa grimace ordinaire lorsqu'il employait cette expression. « Du reste, je ne dis pas cela pour en faire le reproche à personne, mais voici pourquoi. Le fait est, Copperfield, que je n'ai pu racheter ces objets au moment de la saisie. D'abord parce que le marchand de meubles, qui pensait que j'y tenais, en demandait un prix fabuleux. Ensuite, parce que je n'avais plus d'argent. Mais depuis lors, j'ai tenu l'œil sur la boutique, dit Traddles, paraissant jouir avec délice de ce mystère. C'est en haut de Tottenham Court Road. Et enfin aujourd'hui, je les ai vus à l'étalage. J'ai seulement regardé en passant de l'autre côté de la rue, parce que si le marchand m'aperçoit, voyez-vous, il en demandera un prix. Mais j'ai pensé que puisque j'avais l'argent, vous ne verriez pas avec déplaisir que votre bonne vint avec moi à la boutique. Je lui montrerai les objets du coin de la rue et elle pourrait me les acheter au meilleur marché possible, comme si c'était pour elle. La joie avec laquelle Traddles me développa son plan et le plaisir qu'il éprouvait à se trouver si rusé reste dans mon esprit comme l'un de mes souvenirs les plus nets. Je lui dis que ma vieille bonne serait enchantée de lui rendre ce petit service et que nous pourrions entrer tous les trois en campagne, mais à une seule condition. Cette condition était qu'il prendrait une résolution solennelle de ne plus rien prêter à M. Micawber, pas plus son nom qu'autre chose. « Mon cher Copperfield, me dit Traddles, c'est chose faite. Non seulement parce que je commence à sentir que j'ai été un peu vite, mais aussi parce que c'est une véritable injustice que je me reproche envers Sophie. Je me suis donné ma parole à cet effet et il n'y a plus rien à craindre, mais je vous la donne aussi de tout mon cœur. J'ai payé ce malheureux billet. Je ne doute pas que M. Micawber ne l'eût payé lui-même s'il l'avait pu, mais il ne le pouvait pas. Je dois vous dire une chose qui me plaît beaucoup chez M. Micawber, Copperfield. C'est par rapport au second billet qui n'est pas encore échu. Il ne me dit plus qu'il y a pourvu, mais qu'il y pourvoira. Vraiment, je trouve que le procédé est très honnête et très délicat. J'avais quelque répugnance à ébranler la confiance de mon brave ami et je fis un signe d'assentiment. Après un moment de conversation, nous fîmes le chemin de la boutique du marchand de chandelles pour enrôler Peggotty dans notre conjuration. Traddles, ayant refusé de passer la soirée avec moi, d'abord parce qu'il éprouvait la plus vive inquiétude que ses propriétés ne fussent achetées par quelque autre amateur avant qu'il ait le temps de faire des offres, et ensuite parce que c'était la soirée qu'il consacrait toujours à écrire à la plus excellente fille du monde. Je n'oublierai jamais les regards qu'il jetait du coin de la rue vers Tottenham Court Road pendant que Peggotty marchandait ses objets si précieux, ni son agitation quand elle revint lentement vers nous après avoir inutilement offert son prix, jusqu'à ce qu'elle fût rappelée par le marchand et qu'elle retourna sur ses pas. En fin de compte, elle racheta la propriété de Traddles pour un prix assez modéré. Il était transporté de joie. « Je vous suis vraiment bien obligé, » dit Traddles, en apprenant qu'on devait envoyer le tout chez lui le soir même. « Si j'osais, je vous demanderais encore une faveur. J'espère que vous ne trouverez pas mon désir trop absurde, Copperfield. »«
Certainement non, » répondis-je d'avance.
« Alors, » dit Traddles en s'adressant à Peggotty, « si vous aviez la bonté de vous procurer le pot à fleurs tout de suite, il me semble que j'aimerais à l'emporter moi-même parce qu'il est assoufi, Copperfield. » Peggotty alla chercher le pot à fleurs de très bon cœur. Il l'accabla de remerciements et nous le vîmes remonter Tottenham Court Road avec le pot à fleurs serré tendrement dans ses bras d'un air de jubilation que je n'ai jamais vu à personne. Nous reprîmes ensuite le chemin de chez moi. Comme les magasins possédaient pour Peggotty des charmes que je ne l'aurais jamais vu exercer sur personne au même degré, je marchais lentement en m'amusant à la voir regarder les étalages et en l'attendant toutes les fois qu'il lui convenait de s'y arrêter. Nous fûmes donc assez longtemps avant d'arriver aux Adelphi. En montant l'escalier, je lui fis remarquer que les embûches de Mistress Croupe avaient soudainement disparu et qu'en outre, on distinguait des traces récentes de pas. Nous fûmes tous deux fort surpris, en montant toujours, de voir ouverte la première porte que j'avais fermée en sortant et d'entendre des voix chez moi. Nous nous regardâmes avec étonnement sans savoir que penser et nous entrâmes dans le salon. Quelle fut ma surprise d'y trouver les gens du monde que j'attendais le moins, ma tante et Monsieur Dick. Ma tante était assise sur une quantité de mâles, la cage de ses oiseaux devant elle, et son chat sur ses genoux, comme un Robinson Crusoe féminin buvant une tasse de thé. Monsieur Dick s'appuyait d'un air pensif sur un grand cerf-volant, pareil à ceux que nous avions souvent enlevés ensemble, et il était entouré d'une autre cargaison de caisses. « Ma chère tante !» m'écriai-je. « Quel plaisir inattendu !» Nous nous embrassâmes tendrement. Je donnai une cordiale poignée de main à Monsieur Dick et Mistress Croupe, qui était occupée à faire le thé et à nous prodiguer ses attentions, dit vivement qu'elle savait bien d'avance quelle serait la joie de Monsieur Copperfield en voyant ses chers parents. « Allons, allons !» dit ma tante à Peggotty, qui frémissait en sa terrible présence. « Comment vous portez-vous »« Vous vous souvenez de ma tante, Peggotty ?» lui dis-je.
« Oh, nom du ciel, mon garçon !» s'écria ma tante. « Ne donnez plus à cette femme ce nom sauvage !»
Puisqu'en se mariant, elle s'en est débarrassée, et c'est ce qu'elle avait de mieux à faire, pourquoi ne pas lui accorder au moins les avantages de ce changement ?«
Comment vous appelez-vous, P ?»
dit ma tante en usant de ce compromis abréviatif pour éviter le nom qui lui déplaisait tant.
« Barkis, madame !» dit Peggotty en faisant la révérence.
« Allons, voilà qui est plus humain !» dit ma tante. « Ce nom-là n'a pas, comme l'autre, de ces airs païens qu'il faut réparer par le baptême d'un missionnaire. Comment vous portez-vous, Barkis ? J'espère que vous allez bien. » Encouragé par ces gracieuses paroles et par l'empressement de ma tante à lui tendre la main, Barkis s'avança pour la prendre avec une révérence de remerciement.
« Nous avons vieilli ce temps-là, voyez-vous, » dit ma tante. « Nous ne nous sommes jamais vus qu'une seule fois, vous savez, la belle besogne que nous avons faite ce jour-là. Trot, mon enfant, donnez-moi une seconde tasse de thé. »
Je versai à ma tante le breuvage qu'elle me demandait, toujours aussi droite et aussi roide que de coutume, et je m'aventurai à lui faire remarquer qu'on était mal assis sur une malle. « Laissez-moi vous approcher le canapé ou le fauteuil, ma tante, » lui dis-je. « Vous êtes bien mal, là. »«
Merci, Trot, » répliqua-t-elle. « J'aime mieux être assise sur ma propriété. »
Là-dessus, ma tante regarda Mistress Croupe en face et lui dit « Vous n'avez pas besoin de vous donner la peine d'attendre, madame. »«
Voulez-vous que je remette un peu de thé dans la théière, madame ?» dit Mistress Croupe.
« Non, merci, madame, » répliqua ma tante.
« Voulez-vous me permettre d'aller chercher encore un peu de beurre, madame ? Ou bien puis-je vous offrir un œuf frais ? Où voulez-vous que je fasse griller un morceau de lard? Ne puis-je rien faire de plus pour votre chère tante, monsieur Copperfield? »
Rien du tout, madame, répliqua ma tante. Je me tirerai très bien l'affaire toute seule, je vous remercie.
Mistress Croupe, qui souriait sans cesse pour figurer une grande douceur de caractère, et qui tenait toujours sa tête de côté pour donner l'idée d'une grande faiblesse de constitution, et qui se frottait à tout moment les mains pour manifester son désir d'être utile à tous ceux qui le méritaient, finit par sortir de la chambre, la tête de côté en se frottant les mains et en souriant.
« Dick, reprit ma tante, vous savez ce que je vous ai dit des courtisans et des adorateurs de la fortune. »
Monsieur Dick répondit affirmativement, mais d'un air un peu effaré, et comme s'il avait oublié ce qu'il devait se rappeler si bien.
« Eh bien, Mistress Croup est du nombre, » dit ma tante. « Marquis, voulez-vous me faire le plaisir de vous occuper du thé et de m'en donner une autre tasse? Je ne me souciais pas de l'avoir de la main de cette intrigante. »
Je connaissais assez ma tante pour savoir qu'elle avait quelque chose d'important à m'apprendre et que son arrivée en disait plus long qu'un étranger n'eût pu le supposer. Je remarquais que ses regards étaient constamment attachés sur moi lorsqu'elle me croyait occupée d'autre chose et qu'elle était dans un état d'indécision et d'agitation intérieure mal dissimulée par le calme et la raideur qu'elle conservait extérieurement. Je commençais à me demander si j'avais fait quelque chose qui pût l'offenser, et ma conscience me dit tout bas que je ne lui avais pas encore parlé de Dora. Ne serait-ce pas cela par hasard? Comme je savais bien qu'elle ne parlerait que lorsque cela lui conviendrait, je m'assis à côté d'elle et je me mis à parler avec les oiseaux et à jouer avec le chat, comme si j'étais bien à mon aise. Mais je n'étais pas à mon aise du tout. Et mon inquiétude augmenta en voyant que Monsieur Dick, appuyé sur le grand cerf-volant derrière ma tante, saisissait toutes les occasions où l'on ne faisait pas attention à nous pour me faire des signes de tête mystérieux en me montrant ma tante. « Trot, » me dit-elle enfin quand elle eut fini son thé et qu'après s'être essuyé les lèvres, elle eut soigneusement arrangé les plis de sa robe. « Vous n'avez pas besoin de vous en aller, Barkis. » « Trot, avez-vous acquis plus de confiance en vous-même ?»«
Je l'espère, ma tante. »«
Mais en êtes-vous bien sûre ?»«
Je le crois, ma tante. »«
Alors, mon cher enfant, me dit-elle en me regardant fixement, savez-vous pourquoi je tiens tant à rester assise ce soir sur mes bagages ?»
Je secouai la tête comme un homme qui jette sa langue au chien.
Parce que c'est tout ce qui me reste, dit ma tante. Parce que je suis ruinée, mon enfant. Si la maison était tombée dans la rivière avec nous dedans, je crois que le coup n'eût pas été pour moi plus violent.
Dick le sait, dit ma tante en me posant tranquillement la main sur l'épaule.
Je suis ruinée, mon cher Trot. Tout ce qui me reste dans le monde est ici. Excepté ma petite maison que j'ai laissée à Jeannette le soin de louer. Barkis, il faudrait un lit à ce monsieur pour la nuit. Afin d'éviter la dépense, peut-être pourriez-vous arranger ici quelque chose pour moi, n'importe quoi. C'est pour cette nuit seulement. Nous parlerons de ceci plus au long. Je fus tirée de mon étonnement et du chagrin que j'éprouvais pour elle. Pour elle, j'en suis certain, en la voyant tomber dans mes bras, s'écriant qu'elle n'en était fâchée qu'à cause de moi. Mais une minute lui suffit pour dompter son émotion, et elle me dit d'un air plutôt triomphant qu'abattu, « Il faut supporter bravement les revers, sans nous laisser effrayer, mon enfant. Il faut soutenir son rôle jusqu'au bout. Il faut braver le malheur jusqu'à la fin, Trot. »